19h03, merci d'écouter Radio Bonheur. Voici le magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur ce soir pendant 1h30, 90 minutes de foot en direct sur Radio Bonheur. Jusqu'à 20h30, le magazine des déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
En studio et également ce soir, Gaëtan qui cherche son micro. Il s'en mêle à travers les micros là. C'est pas lequel micro.
Ça y est, c'est trouvé. Voilà, bonsoir c'est bon. Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Sébastien est à la technique vidéo, aux manettes vidéo.
On essaye parce que la caméra marchait il y a 5 minutes et vient de nous lâcher. Donc on est en train d'essayer de trouver une autre solution au problème.
Bon, normalement, alors en vidéo également sur la page Facebook des déchaînés du football.
On a une solution de repli au
pire. Voilà, ça devrait revenir dans quelques instants. C'est Sébastien en tout cas qui est aux manettes vidéo ce soir. Bon, alors des prestations variées week-end. Un week-end mi-figue, mi-raisin. Ça s'est plutôt bien passé pour Brest qui a créé l'exploit en battant Lille. Et puis quelle première mi-temps, on va y revenir parce que ça a été quand même fastueux du côté de Brest hier après-midi. Ça a été moyen du côté de Guingamp, 0-0 à Clermont. Alors le score en lui-même, un match nul à Clermont qui est dans le haut de tableau, c'est pas si mal, mais 0-0 quoi. Voilà, ça a été un match un peu triste.
Oui, il faut leur dire que 3-3 c'est match nul aussi.
Oui, voilà, mais on préfère un 3-3 au 0-0. Là, ça a été un match vraiment triste pour Guingamp, 0-0. Et puis, déception encore une fois pour Lorient. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ouais. Je pense que le match a été relativement équilibré dans ce derby hier après-midi en direct sur Radio Bonheur entre Lorient et les Nantais, mais ça n'a pas basculé du bon côté pour les Merlus qui ont loupé l'occasion. Ils n'ont pas loupé le poteau, mais ils ont loupé vraiment là une situation qui a sans doute été le tournant du match, puisqu'ensuite Nantes a marqué par deux fois. On commence par Brest. Les Brestois, c'est l'exploit du week-end. Ça nous redonne le sourire, ça nous redonne la banane d'avoir des matchs comme on a vécu dimanche après-midi. Vous y étiez à Francis Leblay. Pierre, franchement, ça faisait longtemps. Je crois que c'est le match le plus vivant, le plus animé, le plus incroyable, où on a vu le plus de folie depuis le début de la saison. C'est ce match entre les trois clubs que nous suivons, Brest, Guingamp et Lorient. C'est sans doute, en tout cas personnellement, le match qui m'a fait le plus vibrer, ce match entre Brest et Lille. Parce qu'il faut bien le dire, avant le match, de loin, les Lillois, de loin, étaient pronostiqués gagnants à 99%. Alors, un peu moins avec nos auditeurs qui étaient des fans de Brest, mais globalement, quand même, ces Brestois n'étaient pas donnés gagnants. Il fallait être gonflé pour dire que Brest allait refiler 3 buts à Lille et gagner ce match.
Oui, dans ce scénario-là, c'est vrai qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Oui, c'est vrai que c'est sans doute le plus beau match qu'on ait vécu cette saison sur Radio Bonheur, mais j'en oublie pas d'autres. Par contre, c'est vrai que dans la majorité des cas, c'était des matchs de Brest, parce que je me souviens d'un Brest-Marseille, d'un Angers-Brest.
Brest-Lorient,
3-2. Oui, il y a peut-être eu le Lorient, la victoire de Lorient à Reims, peut-être, qui a été...
Sur la deuxième mi-temps, qui était aussi assez rythmée, assez spectaculaire. Mais c'est surtout l'équipe de Brest qui nous a fait vibrer dans ce championnat depuis le début de la saison. Enfin, dans ce championnat et surtout sur les trois équipes que nous suivons, Guingamp, Lorient et Brest. Ouais.
Eh bien, on va réécouter tout cela, le résumé en musique de ce Brest-Lille, ce midi fou à Francis Leblay, même s'il n'y avait pas de spectateurs. Écoutez.
De Romain Fèvre qui pose le pied sur le ballon et qui peut peut-être frapper de là. Non, Romain Fèvre qui va décaler Perrault sur le côté gauche, le centre de Perrault, second poteau, la tête de Pierre Gabriel et l'ouverture du score pour le Stade Brestois. Il revient après un mois de blessure, Ronel Pierre Gabriel, et il vient symboliser ce très bon début de rencontre des Brestois qui sont les plus dangereux. Malgré la possession lilloise, il s'est élevé plus haut que tout le monde sur ce centre de Perrault, les deux latéraux encore dans le coup. Et aller vers l'avant avec ce petit passe pour Romain Fèvre. Oui, le très bon ballon de Fèvre pour Honora. Il y a du monde dans la surface, le centre d'Honora. Allez, il y a la reprise peut-être de Perrault, le contrôle, la frappe et le but. Le deuxième but de Romain Perrault passe passeur tout à l'heure. Buteur maintenant, Lille qui se fait transpercer par une équipe brestoise entreprenante et surtout très juste. Lille sur ce coup-là, le corner frappé, Mouni encore, oh là là, il y a pénalty là, non? Ah oui, là il y a pénalty, c'est pas une faute,
c'est pas vrai,
c'est une main. Il va revoir l'action, j'ai l'impression, monsieur Bata, voilà, il va aller la revoir, moi je vais avoir le ralenti.
Pour moi, il n'y a pas pénalty, hein. Non, non, il n'y a pas pénalty, Pierre.
Et, alors il revient, non, il annule, non, voilà, non, la règle a été respectée.
Ouais, c'est bien,
bien vu de moi.
Absolument. Allez, préserver ses deux buts d'écart. Hein. C'est pas cher payé
droit,
pour Brest.
Mounier qui centre, la tête de Cardona, le troisième,
ouais.
Le troisième but brestois. Quelle justesse extraordinaire. Dans cette première période, ils réussissent tout. Dans les 30 derniers mètres, les Tizèbres. Centre, attention à ce ballon qui traîne avec la frappe peut-être de fonte, celle de Bamba, frappe de Bamba contrée, pénalty pour Lille. 45 plus 3 dans cette première période, l'espoir peut-être pour Lille. Yilmaz face à l'Arsenal. Oh, c'était bien frappé le but de Yilmaz. Avec Pied sur le côté droit, ouais, bon ballon là de Jérémy Pied pour Liadji qui revient sur ses pas, attention à Yazice, Yilmaz, et but de Burak Yilmaz, le doublé de l'empereur turc. On est dans la dernière minute du temps réglementaire, toujours 3-2 pour Brest, je vais déclencher mon chronomètre antenne 2 dans quelques instants, le ballon pour Wea qui va se centrer devant le but, ça traîne le poteau pour Yilmaz, c'est pas fini avec Bamba, oh le poteau de l'ami Burak. Terminé! Brest qui devient la première équipe cette saison à battre le LOSC. Ce que Lyon n'a pas fait, ce que Marseille n'a pas fait, ce que Rennes n'a pas fait, ce que la AC Milan n'a pas fait, ce sont les Brestois qui le font ce soir.
Oui, ce soir, enfin, cet après-midi, ce midi même. Mais bon, quelle prestation. Hein.
J'ai vu du football, des buts, excusez-moi, ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle de retrouver
t'es un peu perdu.
Ce qui nous a fait aimer ce sport. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions hier, parce qu'il y a eu déjà de l'étonnement face aux premières occasions de Brest. Il y a eu de la joie avec ces buts qui sont tombés, et surtout ces actions cliniques, vraiment, des Brestois, on le disait dans le commentaire, qui réussissaient tout dans les 30 derniers mètres. Il y a eu la crainte quand Lille est revenu à 3-1 puis 3-2. Il y a eu le poteau d'Ilmaz. Il y a eu quelques occasions aussi de Brest qui n'ont pas été au bout. Bon, on les a pas mis dans le résumé, sinon ça durait un quart d'heure. Mais voilà, ça a été vraiment un superbe match hier midi à Francis Leblay, malheureusement dans le silence. On a posé la première question à Olivier Dalloglio. Quel est le sentiment après être la première équipe à battre cette saison en France et en Europe le LOSC? Écoutez.
Le premier mot qui me vient, c'est oui, on est fiers d'avoir battu cette équipe-là, hein, parce qu'on sait que c'est du très haut niveau. Je pense qu'on s'est tous régalés de voir l'équipe de Christophe Galtier au Milan AC. Donc ça ne nous a pas rassurés. Hein. Je n'étais pas très rassuré après le match. Mais en même temps, je me suis dit, on ne peut faire que l'espoir. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Aujourd'hui, ils sont meilleurs que nous, on le sait. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'être discipliné. On vient d'en parler, d'avoir toutes ces consignes-là. Si vous faites ça, ça peut être comme un match de Coupe de France, vous pouvez retourner la situation. Donc alors peut-être que c'est pas le hasard, on les avait battus un match amical, donc voilà. On a peut-être joué un peu là-dessus, même si c'était juste un match amical. Je me suis appuyé un peu sur ce match du mois d'août où on avait fait un bon match. On a fait un bon match parce qu'en fait on avait respecté les consignes à la lettre et ça avait été plutôt pas mal. Et là c'est ce qu'on a reproduit aujourd'hui en fait.
Comme quoi les matchs de préparation ça peut servir.
Exactement.
Au moins dans l'inconscient collectif. Deuxième question à Olivier Dalloglio. Quels ont été les ingrédients? On a parlé de la justesse notamment dans les 30 derniers mètres. Lui il nous en a trouvé 3 autres.
C'est la concentration déjà un peu défensive. Même s'il en manque encore, on voit qu'on a été un petit peu en difficulté sur ce qui est normal aussi hein, au jeu du très haut niveau. Mais sur certaines phases on est encore défensivement un peu naïf, un peu loin du marquage. Après, les intensités de course, on les a demandées. On savait très bien que les joueurs, notamment offensifs, en étaient capables. Et puis la dernière chose, elle a besoin de trouver un équilibre. Un équilibre défensif, quand nous on attaque surtout. Et là, ça a été bien équilibré par les deux milieux défensifs qui ont eu un travail de l'ombre assez important à faire et qui l'ont plutôt bien fait.
Oui, voilà, un match presque parfait. En tout cas, 40 minutes presque parfaites pour les Brestois. D'ailleurs, Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, a été très élogieux par rapport à cette formation brestoise. Il a d'ailleurs terminé sa conférence de presse en disant bravo à Brest, qui avait complètement mérité sa victoire sur notamment la première période où Lille a été aux abonnés absents. Il y a eu 3 changements d'ailleurs à la pause de Christophe Galtier. Méconnaissable équipe lilloise, parce qu'aussi, en face, il y a eu une équipe de Brest qui a retrouvé sa force offensive. Gaëtan, vous aviez commenté les derniers matchs de Brest. Ouais. Vous avez vu que 3 buts sur les 4 derniers matchs, c'était pas dans le thème du début de saison où Brest marquait beaucoup, se procurait beaucoup d'occasions. Comment vous ressentiez ces difficultés offensives?
Il y a certains joueurs qui étaient les maillons forts du début de saison qui étaient moins bon ces derniers temps. On pense à Jérémy Le Douaron qui était moins bien, alors que c'est normal aussi parce qu'il découvre, il était en National 2 à Saint-Brieuc l'année dernière, on le rappelle. Il y avait aussi Gaëtan Charbonnier qui était moins bien ces derniers temps.
Qui était remplaçant hier.
Et donc, remplaçant aussi d'ailleurs à Rennes, puisqu'Honora et Cardona qui étaient titulaires hier étaient eux aussi titulaires la semaine passée. Et il s'était passé quelque chose avec ces deux hommes-là. Honora avait d'ailleurs marqué à Rennes. Honora qui était pourtant en difficulté sur son début de saison. Par contre, je trouve qu'avec Cardona, il se passait toujours quelque chose quand il entrait en jeu. Là, il a été titulaire, il a en plus marqué. Voilà, c'est peut-être parce que certains étaient un peu émoussés aussi devant. Il fallait peut-être apporter un autre registre, parce que ce qu'apportent Cardona et Honora, c'est différent de Charbonnier notamment. Donc il fallait peut-être aussi apporter un peu plus de variété dans le jeu de l'attaque brestoise.
Et puis c'est la force aussi de cet effectif, parce qu'autant Dalloglio, notamment aussi avec les blessés, il est court derrière, autant devant, il y a une large palette. Parce qu'il y a Fèvre, Cardona, Mounier, Charbonnier, Honora, plus Le Douaron, Batocchio, Tavares, qu'on ne voit pas beaucoup, et Riberto dans ce début de saison. Donc voilà, il y a beaucoup de choix possibles pour Dalloglio, qui avait choisi donc hier le 4-4-2, mais aussi voilà, il y a des circuits de passe, un rythme qui a été retrouvé, et tout ça nous est expliqué par le deuxième buteur hier, Romain Perrault.
On s'est retrouvé offensivement, et puis je pense qu'on a très bien analysé cette équipe de Lille. On leur a fait extrêmement mal dans la profondeur. Aujourd'hui, beaucoup de ballons dans le dos des centraux, des latéraux, et puis on a eu un nombre incalculable de centres, notamment en première mi-temps. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on a de la qualité offensive. Les derniers matchs, on était un peu en dedans par rapport à ça, mais voilà, on a très bien bossé cette semaine. On a retravaillé les connexions entre les latéraux, les attaquants, les milieux, les excentrés. Aujourd'hui, je pense que c'est le travail qui paye, tout simplement.
Et Romain Perrault, vous le disiez hier, qui pour la 3e fois cette saison est buteur et passeur dans le même match. Il cumule 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Il est donc impliqué dans 6 buts. Il n'y a qu'un seul autre défenseur en Europe qui a ce même total, c'est le défenseur d'Ismaël Traoré. Donc aucun défenseur des 5 grands championnats ne fait mieux. On pourrait être grisé par cette statistique. Écoutez, Romain Perrault, lui, voilà, il n'est pas très fan des chiffres.
Non, après personnellement c'est toujours personnellement c'est vrai que c'est plaisant, mais moi c'est pas ce qui est, c'est pas que c'est, voilà, ça me galvanise pas forcément ça en fait. Je fais partie d'un collectif. Aujourd'hui je trouve que le football c'est un peu trop individualisé, les stats, tout ça. Moi je suis plus sur la partie collective. Voilà, je sais que si je suis décisif, c'est parce qu'aussi mes partenaires le sont aussi. Donc voilà, après, voilà, c'est toujours, je suis toujours satisfait. Puis je pense que ça fait plaisir aussi à la famille, de ceux qui me regardent, mes proches, quand je marque ou quand je fais des passes décisives. C'est tout.
Alors là, vous l'entendez, c'était la 3e relance, hein, parce que il y avait eu 2 questions déjà sur les stats. Il dit non, moi je les regarde pas, ça m'intéresse pas. Mais quand même, on est allé gratter un petit peu à la fin. Voilà, il nous a sorti tout ça. Romain Perrault, qui est vraiment... Alors révélation non, parce que déjà l'année dernière il était bon, mais là clairement on voit une progression.
Mais l'année dernière il n'avait pas ses stats par exemple.
Une passe décisive en 20 matchs.
C'est ça. Il n'avait pas marqué. Il avait marqué en Ligue 2 avec le Paris FC il y a 2 ans. Il a mis 5 buts avec le Paris FC, et souvent des buts comme il a marqué depuis le début de la saison, des frappes croisées depuis son côté gauche.
C'est les 3 mêmes.
C'est quasiment les 3 mêmes. Pardon. Et là, sur son année, sa première année de Ligue 1, il y a eu un petit peu d'adaptation avec Brest. Et puis ça y est, je pense que là il trouve vraiment son rythme aussi auprès de ses partenaires offensivement, et ça se traduit par ses stats aussi, qui même s'il n'y prête pas trop attention, eh bien pèse à l'arrivée pour le Stade Brestois, parce qu'en plus à chaque fois qu'il marque ou fait une passe décisive, Brest gagne à l'arrivée.
Oui, parce qu'il y a eu à Dijon victoire 2-0 et contre Vaumerlug à Étang victoire 3-2 à Francis Leblay, et donc hier contre Lille. On termine la partie Brest par une longue intervention. Vous l'avez peut-être écouté hier sur les réseaux sociaux, mais on vous avait promis ce soir l'intégralité de la fin de la conférence de presse d'Olivier Dalloglio, parce qu'elle est franchement passionnante. C'est l'entraîneur de Brest qui répond dans un premier temps à une question sur ses principes de jeu, parce qu'on le voit, Gaëtan, depuis le début de saison, Brest joue. Brest,
c'est un peu l'antithèse de Guingamp en ce moment, Brest.
Oui, et beaucoup d'autres équipes aussi. Non, mais surtout, ce qui est frappant avec cette équipe, c'est qu'elle était...
C'est tout ou rien, quoi. Il n'y a pas de match nul avec Brest. Ah, non, c'est défaite fait... ou victoire. Bon, il y a eu 6 défaites, 4 victoires, c'est la quatrième. Là, c'est tout ou rien. C'est vrai que c'est une équipe qui fait plaisir, en tout cas quand elle joue bien et quand elle gagne, elle fait plaisir.
C'est vrai, et cette équipe qui était en difficulté quand même, parce qu'elle avait perdu 4 de ses 5 derniers matchs, donc... Je crois d'ailleurs, on en reparlera peut-être après, que Lorient, quand ça devenait compliqué, avait solidifié son équipe, avait mis un petit peu plus de puissance. Dalloglio, non, il a choisi de jouer et écouter. Il nous explique tout ça en 3 petites minutes. Alors ça peut paraître long, mais c'est franchement passionnant à écouter. Olivier Dalloglio.
Ça a été une grande question. Ça a été une grande question. De toute façon, ça a été des grandes discussions en fait. Voilà, ça a été des grandes discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, on persévère, on pousse là-dessus? Ou on change. Voilà. Donc on a décidé de persévérer, de pousser là-dessus, parce que il nous a semblé que c'était la solution. Après, c'est risqué. On nous attendait au tournant, de toute façon. T'imagines les reproches qu'on aurait pu avoir aussi. Parce que oui, on prenait beaucoup de buts. On en prend toujours. En plus, l'effet aussi avec des blessures de défenseurs. Je pense que les faits nous ont peut-être poussé à aller, à continuer dans cette voie-là, quoi. Voilà.
C'est pas commun en Ligue 1.
De
continuer à attaquer malgré le fait de prendre toujours beaucoup de buts.
Ouais, non, c'est pas commun. Après, c'est risqué. Ouais. Ben, il faut savoir prendre des risques avec le staff. Ouais, parce que je suis sûrement pas tout seul à décider. Je pense qu'ils m'ont poussé aussi. Voilà. Je pense qu'on a tous la même idée. Au moment où peut-être où j'hésitais un petit peu, ils ont poussé, donc je leur dois ça aussi. Et on peut aussi parfois un petit peu avoir des doutes sur les comportements, sur le système, etc. Mais là, bon, on est parti sur cette idée-là. C'est vrai que c'est risqué. Je pense qu'aussi, il y a autre chose qui a joué dans la décision, c'est qu'on est aussi dans une période qui est difficile. C'est-à-dire un contexte général. Quand moi, personnellement, je m'assois pour chez moi et que je regarde un match, j'ai pas envie de m'ennuyer, quoi. Voilà. J'ai pas envie de m'ennuyer, donc j'ai pas envie d'ennuyer les autres non plus. Ouais, mais enfin, il faut chercher à, quand même à avancer, à faire du spectacle, à essayer de marquer des buts, et puis après, à nous d'être meilleurs derrière. Moi aussi, je devais prendre des décisions, donc j'aime bien m'appuyer sur les gens qui sont autour de moi, et je pense que j'ai des très 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 bons gars qui sont autour de moi. T'es pas tous d'accord sur la manière. Je les ai bien écoutés. Après, il fallait que je fasse un choix. Donc, je le répète, j'ai plutôt des garçons qui sont dans le jeu aussi, qui sont dans l'idée de jouer. Je pense que si, effectivement, j'avais eu un staff qui était un peu plus prudent, etc., j'aurais peut-être réfléchi encore plus, et on aurait peut-être pris une autre option. On a des grosses discussions entre nous. Bien sûr, après, je dois prendre une décision, mais j'ai besoin de la mûrir. Donc, c'est des discussions qu'on a eues sur les dernières semaines. Voilà, il y a des fois... Quand tu te couches, tu y penses, et quand tu te lèves, tu y repenses. Donc, tu dis, après, bon, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas juste dire, on va se sauver, puis voilà, donc on veut jouer. Alors, dommage qu'il n'y ait pas le public, parce que c'est quand même un trou énorme là-dessus. Mais voilà, on veut faire aussi plaisir aux gens qui nous suivent et garder peut-être une ligne de conduite. Alors, c'est peut-être pas la meilleure voie. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure voie sûre, mais nous on suit celle-là. Aujourd'hui, elle nous donne raison.
Ouais, chapeau bas, Dalloglio. Hein. C'est très très rare d'entendre ça.
Ouais.
De privilégier le spectacle dans un match de foot, c'est fou quand on est à ce niveau-là.
C'est pour ça que je l'ai relancé. J'ai laissé la question. Je l'ai relancé. Je lui ai dit, c'est rare quand même en Ligue 1. C'est pas commun d'avoir ça. Alors ça peut ne pas passer, parce qu'hier s'il perd 4-3, on va lui tomber dessus, on lui dit mais pourquoi il a pas fermé, verrouillé. Mais voilà, il va au bout de ses idées, ça marchera ou ça marchera pas, on verra. Pour l'instant ça marche, parce que Brest est plutôt dans de bonnes eaux au classement. Mais on rebondit là-dessus, parce que du côté de Lorient, alors c'est pas pour juger du tout le travail de Pélissier, mais
Brest a toujours marqué quasiment quand même, hein. Oui. C'est extrêmement rare quand Brest ne marque pas. Brest, c'est vrai, prend des risques, prend beaucoup de buts, mais marque aussi.
Strasbourg donc et Nîmes, je crois qu'ils n'ont pas marqué les Brestois cette année. Donc
15 buts en 10 matchs pour Brest. Et donc, je voulais revenir sur Lorient, parce que Lorient a eu cette question-là aussi à un moment. Oui. Et Pélissier, lui, avait choisi de solidifier Gaëtan.
Oui, il avait resserré les rangs après le match à Brest, justement. Derby perdu à Brest, ça faisait 3 défaites consécutives sur les 4 premiers matchs de la saison. Réception de Lyon, donc avec potentiellement une armada aussi offensive assez conséquente, comme Lille d'ailleurs. Mais il avait, Christophe Pélissier, choisi de passer à 5 défenseurs. Alors ça avait fonctionné aussi parce qu'ils avaient accroché Lyon, ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient fait match nul un partout. Par contre, derrière, il avait reconduit cette idée-là à Metz, défaite 3-1 avec une deuxième mi-temps notamment où ils étaient passés à côté. Et il était très vite revenu finalement, Christophe Pélissier, à sa défense à 4, qui avait souri assez rapidement à Reims quelques semaines suivantes. Donc je pense que c'est. Ça, renier ses principes, ça peut servir sur un match ou deux, pas plus. Il faut rester dans son idée première après.
C'est incroyable
que
quand même.
Parce que les joueurs, sinon, sont perdus aussi.
On savait que Lille n'avait jamais perdu. 10e journée, Lille, c'était quand même la grosse équipe. Ouais. Et oser affronter les Lillois en prenant le risque de se prendre une tôle à domicile, c'était quand même
ça existe.
Incroyable. Bravo, Paris gagné, Paris risqué, mais Paris gagné pour les. Pour les Brestois. On vous retrouve dans un instant, messieurs.
Oui, juste Gaëtan.
Ouais, non, je voulais juste conclure en disant qu'il y avait Thierry Loret qui était un peu dans cette même idée lors de la première année en Ligue 1. On sait qu'il disait de toute façon, des buts, on va en prendre. Alors autant jouer pour en marquer plus qu'on ne va en encaisser.
A tout de suite pour Lorient.
Ah, la neige avec les enfants, on assure. Casque, lunettes, écran total. Sur la route, les pneus Michelin Alpin 6 assurent aussi jusqu'au dernier kilomètre sur sol verglacé ou enneigé. Motricité et freinage optimum, cet hiver, roulez en toute sécurité avec les pneus Michelin Alpin 6.
En ce moment, sur allopneus.com, le montage à domicile est remboursé pour l'achat de 4 pneus Michelin Alpin 6. Offre valable jusqu'au 17 novembre 2020, voire conditions sur allopneus.com.
Allopneus.com. Choisissez, c'est monté.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
En ce moment, Point fort fichier reste ouvert tout en respectant les gestes barrières et t'offre jusqu'à 600 euros de remise sur les portes blindées.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Deliveroo, vos restos et épiceries préférées livrés chez vous. Et jusqu'à la fin de l'année, toutes vos livraisons sont gratuites pour 1 euro par mois au lieu de 10,99€. Alors, on se fait un Deliveroo ? Téléchargez dès maintenant l'application Deliveroo, voir conditions sur deliveroo.fr.
1 euro et toutes mes livraisons sont gratos. Je m'abonne direct. T'as pas 1 euro ?
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Parce que beaucoup d'entre vous ont toujours besoin de se déplacer en toute sécurité, les 340 centres Feu Vert sont ouverts dès 8h30 et renforcent leur service. Prise de rendez-vous en ligne, drive sans contact, click and collect, livraison à domicile, tout est à portée de clic sur feuvert.fr. C'est ça, la patte de l'expert.
Les autres ? Les autres vont attendre pour imaginer leur nouvelle cuisine. Mais vous n'êtes pas les autres, et Cuisine Plus non plus. Découvrez la conception à distance personnalisée par Cuisine Plus. Prenez rendez-vous sur cuisineplus.fr pour partager avec nous vos envies de cuisine. Cuisine Plus, sortez des standards.
Avec un Noël un peu spécial qui se profile, vous pouvez soit acheter vos cadeaux à la dernière minute avec un max de stress.
Mouais. Non merci.
Ou profitez des prix bas d'Amazon pour acheter vos cadeaux à l'avance. Et vous concentrez sur le menu de Noël. Amazon, achetez en avance et détendez-vous.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Testez-vous sur alcomètre.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de Santé publique France.
Et si on profitait d'un coup de pouce pour lancer son activité?
Moi, avec mon forfait mobile Pro Orange et ma Livebox Pro Fibre, je ne suis jamais loin de mes clients.
Ben moi, cerise sur le gâteau, je peux profiter de l'offre création de site web.
Et cerise sur la cerise, moins 30%.
Avec Orange, bénéficie de 30% de réduction sur les offres pro. Forfait mobile, fibre, création de site web. Vous rapprochez de l'essentiel.
Orange.
Disponible en France métropolitaine, réservé aux professionnels. Remise créateur de 30% pendant 12 mois sur une sélection d'offres et d'options pro. Conditions sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit et appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
À tous ceux qui aiment lire, et à ceux qui aiment encore plus flâner dans une librairie pendant des heures, à ceux que le libraire connaît suffisamment pour dire « Oh, ça, ça va vous plaire !» et à ceux qui ont remarqué qu'il était le seul commerçant capable de vous dire « Ah non, celui-là, je vous le déconseille !» à ceux qui lisent le résumé au dos, puis la première page, puis se rendent soudain compte qu'ils en sont déjà au cinquième chapitre, et à tous ceux qui, comme nous, souhaitent tout faire pour permettre à leur librairie de quartier de surmonter cette crise. Sachez qu'Intermarché référence gratuitement les livres des librairies indépendantes sur son Drive solidaire dès aujourd'hui. Plus d'infos sur l'application mobile Intermarché. Intermarché, tous unis.
Carrefour. Carrefour remercie ses 18 000 partenaires producteurs français pour leur mobilisation, qui nous permet de vous proposer chaque jour de bons produits frais de nos régions. Et pendant cette période particulière, si vous êtes producteur ou connaissez un producteur qui rencontre des difficultés à écouler ses produits, n'hésitez pas à vous rendre dans le magasin Carrefour, Carrefour Market ou Supéco le plus proche pour rencontrer le directeur du magasin. C'est ça, être partenaire de tous les Français. Carrefour.
Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct ce soir sur Radio Bonheur, 19h29. Voilà, on a terminé sur, pour Brest, mais juste un petit mot encore sur les Brestois qui ont réalisé donc l'exploit du week-end en battant Lille sur leur pelouse 3-2. Le prochain match des Brestois, ça ne sera pas le week-end prochain. Il y a une trêve internationale, donc pas de foot professionnel le week-end prochain. Mais Brest rejouera une nouvelle fois à domicile lors de la prochaine journée, 11e journée du championnat de Ligue 1. Ce sera le samedi 21 novembre à 17h, samedi à 17h, les Brestois recevront à nouveau à domicile. Donc Saint-Étienne, une équipe en difficulté un peu aussi
en très grande difficulté
dans ce championnat
de rang pour l'AS Saint-Étienne.
De Ligue 1, ouais, ça va mal aussi pour l'AS Saint-Étienne.
Compliqué.
Bon, voilà, en tout cas, les Brestois sur la bonne trajectoire avec cette victoire contre Lille. On a hâte de les voir rejouer dans deux semaines contre l'AS Saint-Étienne. Les Merlus jouaient également sur leur pelouse ce week-end. Ça s'est passé ce week-end en direct également sur Radio Bonheur hier après-midi. Et malheureusement pour les Merlus, face aux Canaries, ça ne s'est pas bien terminé parce que globalement, le match a été relativement équilibré. Mais la fin de match a été nantaise.
Oui, une fin de match totalement nantaise avec deux buts inscrits dans les 10 dernières minutes par Abdoulkader Bamba et Ludovic Blas, l'ancien Guingampais, juste après une énorme occasion pour le Football Club de Lorient. On réécoute le résumé de ce match en musique. C'était hier après-midi sur Radio Bonheur. Le centre ici, la tête de Mofi qui va passer à côté. C'était pas loin, pas suffisamment ajusté. Amel au but pour repasser vers l'orienté sur son pied droit qui va frapper et obliger Alban Lafont à la parade sur cette frappe. De Merlu dans le mur, c'est parti finalement très fort par Andrei Giroto et ça passe au-dessus. Wissa, est-ce qu'il va pouvoir résister à Palois? Oui, en deux temps avec l'orienté pour retrouver Wissa dans la surface. Frappe de Wissa! Et la parade de Lafont, c'est la plus grosse occasion dans ce match! Avec cette parade de Lafont sur ce ballon en piqué de Wissa qui avait tenté de le passer juste au-dessus du portier nantais. Mais l'ancien Toulousain ne s'est pas laissé surprendre et ce sera un corner pour les Merlus. Dans la surface, Blas en retrait sur son pied gauche, frappe de Blas! Oh, elle n'est pas passée loin de la lucarne, celle-là, la frappe de Ludovic Blas, elle est partie très fort à l'entrée de la surface de réparation et Nardi qui était resté de marbre. Et le ballon récupéré là par l'orienté à l'entrée des 20 mètres. Ce ballon qui est la frappe qui est contrée, ça revient dans les pieds de Mofi dans la surface qui tente de se retourner, de frapper avec Wissa! Et le ballon qui passe à côté! L'orienté à 20 mètres qui va frapper et encore Lafont cette fois pour renvoyer le danger, c'est peut-être pas terminé.
De la place qui est décalée dans la surface, centre de la place au deuxième. Pour la volée, le Marvaux, le poteau. Le poteau pour Sylvain Marvaux suite à ce superbe décalage initié par Marvaux vers de la place, le centre au cordon. Et de la place et la volée de Marvaux qui échoue sur le poteau d'Alban Lafont. Celle-là, elle méritait d'aller au fond. À zéro, mais il y a des espaces qui se libèrent de part et d'autre. On l'a vu là avec Wissa, donc il y a quelques instants, entouré à 25 mètres pour Kader Bamba dans la surface. La frappe de Bamba qui ouvre la marque et l'ouverture du score contre le cours du jeu du Football Club de Nantes et du nouvel entrant Abdoul Kader Bamba qui ouvre la marque à la 80e minute de jeu. Perte de balle de Diarra dans les 35 derniers mètres. La porte est là pour couvrir, mais ça ne suffira pas. Et Colomouani qui marche sur le ballon, mais qui va tout de même garder la possession de cette balle pour retrouver Blas. Pas de position de hors-jeu. Blas qui va dribbler Benardi et mettre fin à tout suspense dans ce match. Ludovic Blas qui va assommer le Football Club de Lorient, lui qui était déjà à l'origine du but de Guingamp l'année dernière pour la défaite des Merlus dans le derby. Cette fois, il va assommer le FC Lorient et offrir un nouveau derby à son équipe, cette fois au FC Nantes. Et ça s'achève ainsi donc sur cette dernière opportunité pour Marvaux et les Merlus, la victoire de Nantes 2-0.
Ouais.
Et oui,
Marvaux
défaite.
A loupé le coche, hein. Ça a été le tournant du match pour Lorient, hein, pour les deux équipes évidemment. Ce but manqué par les Merlus à quoi, à 12-13 minutes de la fin de
ouais,
la rencontre.
C'était à la 71e, 9 minutes avant le premier but, ouais. Le premier but nantais.
C'était le tournant du match.
Ça a été le tournant parce que derrière, Lorient ne s'est pas recréé d'occasion aussi belle, et surtout Lorient a concédé ces deux buts-là, et on a senti dès le premier but que Lorient avait non pas lâché mais avait été assommé par cette équipe des Canaries entraînée par l'ancien Merlu d'ailleurs, hein, Christian Gourcuff, bien sûr, qu'on a souligné hier pendant ce match. L'actuel entraîneur, c'est Christophe Pélissier, et il est revenu, le coach des Merlus, sur la maîtrise qui était lorientaise, mais l'efficacité qui était nantaise sur ce match.
On le dit, hein, souvent ces matchs-là, on savait que les équipes se rendaient coup pour coup. On a contrôlé tous les espaces, parce qu'on n'a rien concédé sur la première mi-temps, et nous, on a eu beaucoup de situations, notamment... Deux qu'on doit mieux faire avec la tête de Terem, le lob de Terem aussi, le Wissa face à Lafont. Je crois qu'on a deux trois situations où on doit ouvrir le score. Deuxième mi-temps pareil, quand il y a cette volée de Sylvain sur le poteau, la faute sur Wissa entre les deux défenseurs qui est malheureusement pas sifflée.
Il y en a eu beaucoup, hein, des situations, on l'entendait dans le résumé d'ailleurs, les principales occasions, elles étaient lorientaises. Il y avait eu deux situations, une grosse et une toute petite, les deux d'ailleurs pour Blas, côté nantais en deuxième mi-temps, c'était tout sur la deuxième mi-temps. Mais il y en a eu deux derrière en fin de match, et là ils ont su les saisir, les opportunités, les Canaries, pour marquer ces deux buts-là et s'imposer donc à Lorient. Lorient d'ailleurs qui est en grande difficulté dans les derbies, ce sera l'objet de la rubrique de demain, on y reviendra donc demain sur
déjà
l'année dernière, justement, j'ai posé cette question à Pélissier par rapport au derby perdu contre Nantes, à Brest en début de saison, contre Guingamp l'année dernière. Et donc, cette équipe de Lorient qui n'avance pas autant. Le point à Dijon aurait pu être un bon point s'il avait été fructifié par une victoire contre Nantes hier. Autant là, on se dit que côté Lorientais, il y avait peut-être 6 points à prendre. À l'arrivée, il n'y en a qu'un. Et parce que Lorient ne marque plus. Ça fait 3 matchs que Lorient ne marque plus désormais. L'analyse offensive de Christophe Pélissier.
C'est l'efficacité qui nous a fait le défaut, parce que franchement sur les situations, à la fois le gardien nantais a su préserver sa cage inviolée, puis la réussite sur le poteau de Sylvain. Voilà, ce genre de situation où on n'arrive pas à marquer, souvent on se fait punir. On voulait leur faire mal entre les lignes. Pour pouvoir prendre la vitesse après sur les côtés avec Armand ou Stéphane ou Wiss. Donc on est arrivé à le faire par rapport au positionnement de Sylvain. Et s'il marque, c'est une bonne. Donc faut attention à ne pas avoir être trop réducteur sur les jugements.
Il rebondissait sur une question d'un de nos confrères qui disait que ça n'avait pas marché l'entrée de Marvaux, mais qui s'est très vite repris, parce que c'est vrai que si Marvaux marque, le jugement est totalement différent.
Oui, et d'ailleurs, elle est pas facile à mettre, hein, sa reprise, on vient de la revoir. C'est un centre qui est assez haut, qui retombe, et Lafont sort en prenant beaucoup de place. Ouais, ça manque un tout petit peu de précision. Mais est-ce que du côté de Lorient, vous qui voyez tous leurs matchs, Gaëtan, est-ce qu'il y a des occasions? Est-ce qu'il y a beaucoup d'occasions?
Alors, énormément.
Beaucoup, pas forcément, mais il y a toujours...
Pas dans le dernier match, en tout cas, contre Nantes, surtout en première période.
Ouais,
ça a quand même
il y a toujours deux,
tôt,
trois occasions nettes, quand même. Il y a ce poteau, là, ouais, il y a le face-à-face, oui,
c'est vrai que l'année dernière, les Merlus, les loupaient pas, surtout les premières.
Oui, ils marquaient tout le temps, ouais, en début de match.
Ouais. Parce que c'est vrai que
c'est plus le cas.
Quand une équipe ne marque pas, il y a un degré d'inquiétude qui est moindre si elle se procure beaucoup d'occasions ou pas d'occasions.
Et elle s'en procure quand même quelques-unes. Là, il y a,
pas énormément, quand même.
Pas énormément, mais il y a toujours des occasions nettes. Sur les trois derniers matchs, par exemple, il y a un poteau à chaque fois pour Lorient. Ça explique aussi un petit peu les difficultés. Il y a un face-à-face hier entre Wissa et Lafont. Super match d'ailleurs de Lafont.
Il y a eu beaucoup d'occasions contre Marseille, il me semble.
Il y a eu plusieurs occasions contre Marseille, surtout en deuxième mi-temps là aussi. Les premières mi-temps sont souvent un petit peu difficiles. Hein. À Reims, c'était le cas, contre Marseille, contre Nantes encore. À Dijon, bon, c'était l'ensemble du match qui était de la même saveur, on va dire.
Ah bah oui, il y avait le pénalty.
Mais il y a eu le pénalty. Il y a eu quand même un poteau sur chacun des trois derniers matchs du côté de Lorient. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une tonne d'occasions. Le problème, c'est que les rares grosses occasions, ou les quelques grosses occasions, elles ne sont pas transformées. Malgré ça, il y a quand même des points positifs qui ressortent du match de Lorient, notamment le milieu de terrain qui devient de plus en plus consistant, qui trouve de plus en plus de repères aussi entre Laurent Abergel et Trévoz Chaloba. D'ailleurs, c'est juste après la sortie de Chaloba, qui malheureusement a été à nouveau touché au genou, et bien que Lorient a craqué. Écoutez, Christophe Pélissier est satisfait de son milieu de terrain.
Ouais, je trouve qu'on a été performant dans ce qu'on voulait faire aujourd'hui. J'ai vu deux joueurs au milieu qui ont fait un énorme match, que ce soit Lolo et Trévoz. Je l'ai dit, malheureusement, comme par hasard, la blessure de Trévoz coïncide avec la perforation au milieu qui nous coûte le but. Donc voilà, il y a des joueurs qui commencent à prendre le rythme, il en fait partie.
Ouais, Trévoz Chaloba en fait partie. Problème, eh bien, il a rechuté au niveau de son genou. Il avait déjà été absent quasiment un mois à son arrivée à cause de cette blessure et il a rechuté. Alors, on va voir quelle sera la durée d'indisponibilité pour le milieu de terrain prêté par Chelsea cette saison. Une petite virgule peut-être, Dominique, et puis on revient pour reparler à nouveau du FC Lorient.
Retour du magazine des déchets et du football, 19h41, on continue de parler de Lorient dans le dur.
Oui, dans le dur, après cette troisième rencontre consécutive sans victoire, sans marquer aussi, donc défaite 2-0 contre le football club de Nantes. Malgré tout, une qualité de jeu qui redevient ce qu'on attend petit à petit, parce qu'il y avait eu quand même des sorties difficiles contre Lens, à Brest, à Metz. Il y avait eu plusieurs matchs compliqués en début de saison. Au-delà du score, dans le jeu, là c'était quand même, on retrouve certaines bases et certaines fondations.
Au dernier match aussi, avant ce match contre Nantes, les Merlus n'avaient pas été mauvais, mais ça n'avait pas payé non plus. C'est terrible.
Alors, est-ce qu'il va falloir s'appuyer finalement sur la qualité de jeu, comme le fait Brest d'ailleurs, s'appuyer sur des principes et une qualité de jeu pour rebondir? Écoutez justement Jonathan de la Place qui revient sur tout cela en conférence de presse.
Voilà, après je pense qu'il faut prendre le positif de ce match-là. Je pense qu'on a retrouvé du jeu, une certaine qualité. On s'est créé des belles situations et ça je pense qu'il faut le garder. Et voilà, et à l'avenir, voilà, être plus efficace, c'est sûr, pour prendre les trois points.
Ouais, parce qu'on se répète, mais ça n'a pas été un mauvais match de Lorient. C'est le résultat qui est mauvais, mais, ouais. mais le match en lui-même. Ouais, il y aurait eu match nul, je pense que ça aurait été plutôt logique hein, oui, dans ce derby.
C'est ça, je pense que Lorient ne méritait pas de perdre, peut-être pas tout à fait de gagner non plus. Enfin voilà, le match nul n'aurait pas été illogique, loin de là. Mais le problème, c'est que Lorient n'ouvre pas le score. Ça fait quand même trois matchs consécutifs. On l'a dit que Lorient tape le poteau, parce que contre Marseille, c'était aussi avant le but de Marseille, le poteau de Quentin Boigard. Lorient n'arrive pas à ouvrir le score, ça fera l'objet d'ailleurs de la rubrique de mercredi. On étale un petit peu le programme
c'est marrant.
Pour mercredi, on reviendra là-dessus. Mais en attendant, le bilan à domicile, il est compliqué pour les Merlus. Il y a eu une seule victoire, c'était lors de la première journée. C'est vous qui l'avez vécu, d'ailleurs, Pierre, 3-1 contre Strasbourg.
Ouais, avec grand plaisir.
Pour fêter le titre.
Pour fêter le titre de champion de France de Ligue 2. Mais depuis, à domicile, il n'y a pas eu une seule victoire. Il y a eu un match nul contre
Posez-vous
Lyon.
Posez-vous les bonnes questions, Gaëtan.
Oui, il faut que vous retourniez peut-être un petit peu au moustoir. Dans les semaines à venir, en tout cas, du côté de Lorient, on n'arrive plus à gagner à la maison. Est-ce une inquiétude ou non ? Christophe Pélissier s'est confié à ce sujet.
Non, on ne peut pas dire que ça soit un très bon bilan à domicile, mais de là y penser, je crois que quand on voit la prestation de ce soir, on n'a pas senti les joueurs inhibés par le fait qu'on n'avait pas gagné à la maison depuis un moment. Voilà, comme j'ai dit, il faut retenir le positif. On s'est créé des situations, malheureusement, on ne les a pas mis au fond.
Oui, c'est ce qu'il a manqué cette semaine, comme les précédentes semaines, en tout cas les deux précédentes semaines, pour le FC Lorient.
Ça ne marque pas.
Non, ça ne marque pas, ça ne marque plus, parce que ça marquait pas mal en début de saison. C'est une équipe de Lorient qui compte 12 buts en 10 matchs. Donc quand on sait que ça n'a pas marqué sur les 3 derniers, c'est-à-dire que les 12 premiers ont été concentrés sur les 7 premières journées de la saison. Donc c'est une équipe qui marquait beaucoup au début.
Presque 2 buts par match et puis là, c'est 0. Avant cette série, oui.
Là, c'est 0 sur les 3 derniers. Conséquence au classement de Ligue 1. Après 10 journées, Lorient est 17e avec 8 points. Ex-aequo avec Nîmes, qui est aussi en grande difficulté.
En grosse difficulté.
5-1 hier contre Angers.
Ah oui, c'est une catastrophe.
À domicile.
Pour les Nîmois, ça va très très mal. Ça va pas bien pour les Merlus, mais alors là, ça va très très mal pour Nîmes.
Ah oui, parce que la dynamique, elle est vraiment pas bonne. Ex-aequo, en tout cas, Lorient et Nîmes. Strasbourg, 19e, 6 points. Dijon, dernier avec 4 points. Dijon qui n'a toujours pas gagné une seule fois en 10 matchs.
Ouais, ils ont loupé un péno. Hier, il y a eu match nul, un but partout.
Mais
encore un match
loupé,
nul. Ils ont perdu que 6 fois, Dijon. Ils ont quand même
6 fois sur 10.
6 fois sur 10 avec 0 victoire.
Ouais, mais bon, ils ne perdent pas si souvent que ça. Je veux dire,
il y a presque quelques matchs nuls.
Il y a 4 matchs nuls quand même. Il ne faut pas enterrer Dijon trop vite, je pense.
Des matchs nuls, ça ne fait pas avancer.
Dijon qui a changé et d'entraîneur et de directeur sportif. Stéphane Jobard. C'est Stéphane ? Stéphane Jobard et Peggy Loïndoula qui ont quitté le club cette semaine. Ils recherchent un nouveau coach. Jocelyn Gourvennec, d'ailleurs, a refusé le poste. On voit que du côté de Rucas, ça se propose là-bas.
Il y a Bernard Blacard aussi qui est dans les tuyaux, l'ancien entraîneur de Nîmes.
Il ne faut pas entraîner Dijon trop vite parce qu'il y a des clubs qui s'effondrent.
Et Nîmes, ça devient chaud aussi.
Nîmes, ça s'effondre. Saint-Etienne, ça s'effondre. Il y a des clubs qui vont très mal dans ce championnat de Ligue 1. Et comparativement, Reims, Dijon, Strasbourg, c'est peut-être pas les pires ces derniers matchs.
Strasbourg n'est pas non plus en
top.
8 défaites en 10 matchs.
C'est eux qui ont le plus perdu.
C'est quand même compliqué. Par contre, pour Brest, un peu plus haut dans le classement, ça va mieux parce que Brest est 13e avec 12 points. Ça fait 4 de plus que Nîmes, barragiste, et donc 7 de plus que le Racing Club de Strasbourg. Les Brestois qui sont même désormais à 3 points seulement de la 10e place.
Et à 5 points du 5e, il y a moins de points d'écart avec le 5e qu'avec le 19e. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour les Brestois. Voilà, vous le disiez, Dominique, c'est souvent tout ou rien. 4 victoires, 0 nul et 6 défaites. Le dernier match nul, c'était au mois de février. 11 matchs sans nul, 11 ou 12 maintenant pour les Brestois.
Ça fait 12 maintenant.
Ouais, c'est 12 et c'est leur plus longue série depuis 10 ans sans nul.
Match donc, nul.
Écoutez, on verra pour le Brest-Saint-Etienne.
Strasbourg et le Paris Saint-Germain qui n'ont pas non plus fait de match nul cette saison avec le Stade Brestois en Ligue 1. Brest qui accueillera donc Saint-Etienne après la trêve, et Lorient de son côté qui aura un gros déplacement sur la pelouse de Lille juste après la trêve. Ce sera le dimanche soir à 21h cette rencontre. C'est vous qui y serez, Pierre,
avec plaisir
ce jour-là. Mais Lille
encore une fois pour Pierrot.
On espère le même match,
mais maintenant que Lille a perdu,
on va leur donner la cassette de Brest.
Oui, c'est ça,
il faut leur montrer comment on fait les Brest.
Exactement, il faut montrer la recette.
On va peut-être pas se faire avoir trop souvent les Lillois quand même, attention.
Non, mais bon, en tout cas, voilà, on a le droit d'espérer aussi pour les Merlus, bien sûr, qui iront là-bas, donc après la trêve internationale. Une trêve où il y aura 4 joueurs du côté de Lorient à rejoindre leur sélection. Johan Wissa avec la République démocratique du Congo, Adrian Gerbic avec l'Autriche, et puis Thomas Fontaine et Jérémy Morel qui, eux, rejoignent l'équipe de Madagascar.
Donc, oui. Aucun match pro hein, le week-end prochain.
Non.
Pas de Ligue 2.
Si, un national. Je crois national. Que lundi prochain, pendant le magazine, il y aura Bastia Saint-Brieuc.
Exactement.
C'est un match en retard, non?
Non, ce sera le national joue en fait le week-end prochain, joue parfois pendant les trêves internationales. Ah, c'est un peu la particularité du championnat de national qui est ni pro ni amateur, qui est un peu entre les deux. Et qui a un calendrier aussi un peu entre les deux, parfois.
Bien, il est 18h et 40...
19h.
Oui, j'ai dit 18h. 19h et 48 minutes. On a le temps de parler du championnat de national. On a encore un peu de temps avant l'écran pub. Messieurs.
Avec Saint-Brieuc, d'abord, qui a gagné contre l'équipe du Red Star. C'était vendredi, victoire 1-0. Oui,
et une belle victoire.
Oui, et je pense que ça porte bonheur d'être l'invité Radio Bonheur, parce que nous aurons tout à l'heure le défenseur de Concarneau, Johan Bilingui, prêté par Guingamp, qui a marqué le but de la victoire. Ouais. Et celui qui était notre invité la semaine dernière, James Lemarer, a marqué le but vainqueur pour Saint-Brieuc. C'était donc contre le Red Star vendredi. Mais un match étonnant parce que je crois qu'il y a eu 3 buts refusés pour le Red Star. Au moins deux. Deux buts refusés au Red Star.
C'était un match engagé, un match où on a été agréablement surpris par cette équipe briochine. Sans doute un des meilleurs matchs depuis le début de la saison de Saint-Brieuc, même si c'est vrai que les décisions arbitrales étaient peut-être contestées ou contestables. Mais ça a été un des matchs les plus pleins pour Saint-Brieuc à domicile au stade Fred Aubert. Alors, il n'y avait personne là aussi, match à huis clos. C'est dommage parce que ce score de 1-0, il est quand même logique globalement sur la totalité de la rencontre. Saint-Brieuc méritait de gagner. Et puis, c'est vrai que Saint-Brieuc, en plus, est souvent habitué à ce genre de petits scores. Hein. Saint-Brieuc gagne très souvent par un but d'écart et souvent par 1-0.
Exactement.
J'appelle ça les scores Bazdarević. On n'a plus que ça aussi. Victoire 1-0, défaite 1-0, 0-0.
Et encore la dernière, c'était 2-0.
C'est vrai. Bon, allez.
Je suis à domicile aussi.
Alors, 2-0
contre Auxerre. 2-1 avec 3 pénalties dans le match, je crois.
Contre Bastia Borgo, ouais.
Mais c'est vrai, par contre, et on le disait, d'ailleurs, c'était l'objet de notre rubrique, c'était jeudi, il me semble, sur Saint-Brieuc. À domicile, c'est un super parcours de Saint-Brieuc qui n'a perdu qu'une fois en 7 matchs, 4 victoires et 2 nuls. Et surtout, sur les 3 derniers matchs, 0 but encaissé. Et je crois d'ailleurs que la paire Kerbrat-Angois n'a pas encaissé de but.
Exactement. Elle n'a pas encaissé de but sur les 3 matchs. Alors, je ne sais pas s'ils étaient associés en Coupe de France aussi. Je sais que Kerbrat joue en Coupe de France. Je ne sais plus si Angois y était.
Je crois qu'il avait joué.
Il nous a dit que Sébastien. Donc, ça veut dire que les 4 matchs que les deux hommes ont fait ensemble, 0 but encaissé pour le Stade Briochin.
Ouais, bravo les Briochins qui remontent du coup au classement. On va y venir dans quelques minutes, mais auparavant une petite page publicitaire et on va parler aussi de Concarneau qui a aussi gagné ce week-end.
Avec le buteur.
Ouais, les clubs bretons qui se débrouillent bien dans ce championnat de national. À tout de suite.
Bonjour Chantal.
Encore vous, Franck Ferrand.
Eh oui, en faisant le tour de la France cet été, j'ai vu partout des vérandas et des pergolas à Kéna. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'à Kéna s'adaptait à tous les habitats longères, basques, contemporaines. Vous le saviez?
Évidemment, je le savais. Je faisais déjà les pubs à Kéna, vous n'étiez pas né.
En ce moment, Akena recrute des poseurs. Rendez-vous sur akenaveranda.com.
Avec l'hiver et le contexte qui conduit à rester davantage chez soi, il est important de vérifier vos équipements de chauffage pour votre tranquillité, votre confort et vos dépenses d'énergie. On fait le point avec Sandrine Perratou, chef d'agence Engie Home Service Val d'Oise.
En effet, les 3000 techniciens d'Engie Home Service sont mobilisés pour assurer la maintenance et le dépannage de vos équipements, chaudières ou pompes à chaleur. Ils sont formés aux gestes barrières et respectent rigoureusement les règles sanitaires.
Et ils sont partout en France ?
Oui, que vous soyez client ou non, les 200 agences d'Engie Home Service sont toujours à vos côtés et vous accompagnent pour que vous vous sentiez bien chez vous.
Merci Sandrine. Trouvez l'agence proche de chez vous sur engie-homeservice.fr. J'agis avec Engie Home Service. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Carrefour. Le linge propre ne le reste jamais très longtemps. On se fait des tâches à la cantine, en bricolant, à la crèche. Heureusement, c'est le mois des marques chez Carrefour et Carrefour Market. Et dès demain et jusqu'au 16 novembre, il y a 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur le lot de 3 lessives le chat. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour.
3 fois 2 litres, différentes variétés, magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Ce soir je dis Just Eat, Burger King, Subway, Planet Sushi, à deux sur un nuage, bébé. Ce soir je te dis Just Eat, Just Eat, c'est toi qui choisis, bébé.
Les grandes chaînes débarquent sur Just Eat, Subway, Burger King, Planet Sushi. Qu'est-ce qu'on attend? Téléchargez l'appli. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de deux verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Testez-vous sur alcomètre.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de Santé publique France.
On retrouve Être là pour vous avec Cerise de Groupama.
Elle n'est plus de première jeunesse, votre voiture, Julie.
C'est le moins qu'on puisse dire, Cerise. J'aimerais la changer en profitant des primes à la conversion, mais ça reste un gros budget.
Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel désiré ou à un super taux. Et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée.
Ah bah c'est le moment de changer alors.
Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr.
À tous ceux qui aiment lire, et à ceux qui aiment encore plus flâner dans une librairie pendant des heures, à ceux que le libraire connaît suffisamment pour dire « Oh, ça, ça va vous plaire !» et à ceux qui ont remarqué qu'il était le seul commerçant capable de vous dire « Ah non, celui-là, je vous le déconseille !» à ceux qui lisent le résumé au dos, puis la première page, puis se rendent soudain compte qu'ils en sont déjà au cinquième chapitre. Et à tous ceux qui, comme nous, souhaitent tout faire pour permettre à leur librairie de quartier de surmonter cette crise. Sachez qu'Intermarché référence gratuitement les livres des librairies indépendantes sur son Drive solidaire dès aujourd'hui. Plus d'infos sur l'application mobile Intermarché. Intermarché, tous unis.
19h54, c'est en direct le magazine des déchaînés du football sur Radio Bonheur jusqu'à 20h30. On continue de parler du championnat de national après la victoire ce week-end de Saint-Brieuc au stade Fred Aubert 1-0.
Parce qu'on aura dans quelques instants avec nous Johan Bilingui, le défenseur buteur de l'US Concarneau. Il a marqué vendredi soir l'unique but des Concarnois qui se sont imposés 1-0 face à Villefranche. Buteur à la 21e minute, le latéral droit prêté par Guingamp. Il était prêté la saison dernière à Bastia Borgo, déjà dans ce championnat de national. Johan Bilingui est prêté cette saison à Concarneau et il est avec nous sur Radio Bonheur. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors racontez-nous ce but, c'est votre premier but de la saison, mais c'est un vrai but d'attaquant, celui que vous avez marqué contre Villefranche vendredi.
Oui, franchement c'est un vrai but d'attaquant. Comme vous avez pu le voir justement, et franchement je suis très content justement du résultat qu'on a pu justement avoir durant ce match-là. Et franchement c'est un très très bon but justement, dû justement à la bonne passe justement de mon coéquipier Guillaume Jégouze, qui a apporté justement par le résultat qu'on a eu justement face à Villefranche.
Alors Concarneau est actuellement la co-meilleure défense de National avec 9 buts encaissés comme Villefranche, l'adversaire battu vendredi. Vous qui êtes défenseur droit, qu'est-ce qui fait votre force défensivement, pensez-vous, du côté de Concarneau?
Ce qui fait notre force, franchement, défensivement, je pense que c'est l'attaque. Je pense qu'offensivement, justement, il nous facilite le travail en défendant correctement. Et justement, il y a le travail justement en amont qui est bien coordonné. On est tous bien coordonnés au niveau de la défense et de l'attaque, qui permet justement à ce que justement on puisse avoir cette position là actuellement, justement comme vous venez de dire, en deuxième posture après Villefranche au niveau de la meilleure défense quoi.
Alors vous êtes invaincu depuis 5 matchs en national. On le sait, ce championnat est très difficile à lire parce qu'il y a des équipes qui ont 3 matchs de retard sur d'autres. C'est pas forcément lisible, mais vous êtes en attendant deuxième tout de même derrière le Sporting Club de Bastia. Est-ce que vous pensez être au-delà du rythme espéré en ce début de saison?
Dans un premier temps, franchement, je pense que le fait qu'on est en deuxième du classement, c'est quelque chose qui est merveilleux. Parce que je pense que par rapport à la position qu'on occupe actuellement, je pense que c'est, avec toute humilité, c'est une bonne place. Après, justement, par rapport à le fait justement des 5 matchs consécutifs sans défaite actuellement, je pense que c'est aussi dû justement au travail justement qui est fourni justement entraînement et justement avec justement l'appui aussi du coach. Et justement, ça reflète le fait que justement on a cette posture là. Et je pense que vraiment c'est une période qui est très 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 compliquée, justement avec les matchs justement qui sont suspendus, justement Dieu à ce que vous savez justement la crise sanitaire qui facilite pas les choses. Mais voilà, donc aujourd'hui on occupe cette deuxième place. Donc rien n'est encore fait, on est encore dans le début. Et franchement, j'espère vraiment, et on espère vraiment à ce que justement qu'on puisse rester à cette position-là.
Alors le maintien reste sans doute l'objectif prioritaire, en tout cas dans un premier temps, en espérant peut-être mieux dans cette saison. Justement, vous vous déplacez à 7 vendredi soir, qui est une équipe actuellement en position de premier relégable, qui est un promu, donc pourquoi pas un concurrent au maintien si ça devait rester l'objectif des Tauniers cette saison. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre jouer à domicile et à l'extérieur dans ce championnat de national?
Je pense que oui, exactement. Franchement, c'est vraiment ça. Jouer à l'extérieur, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que justement, après, justement, dû à ce qui se passe actuellement, le fait qu'il n'y ait pas de supporters, peut-être que ça va peut-être être différent. Peut-être qu'on ne sait pas. On verra justement lors du match contre 7. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile, que justement par rapport au fait que justement qu'il y a ces problèmes là. Et je pense aussi vraiment que justement que la position justement que qui est du maintien par rapport au club, je pense que justement elle est actuellement respectée. Et c'est un objectif que le club justement demande, et c'est ce qui est en train de pouvoir être respecté. Et donc par rapport à ça, vraiment c'est vraiment ça, c'est vraiment pas facile. C'est un championnat qui est compliqué, parce que justement aller à l'extérieur c'est vraiment pas facile, parce que justement on sait pas ce qui peut se passer. C'est des matchs justement qui sont durs à jouer, justement dont c'est qui est un club qui va être pas facile à pouvoir manœuvrer. Donc on verra comment ça va se passer.
Alors en national, on sait, il n'y a pas des stades de 30 ou 40 000 places, mais le fait qu'il n'y ait plus du tout de public quand on joue désormais à huis clos, est-ce que ça peut équilibrer les débats justement dans un match ou pas forcément?
Oui et non. Je dirais dans le sens où oui, parce que c'est vrai que y a une motivation, je pense, supplémentaire, je pense, pour l'équipe qui reçoit, je pense. Et non, parce que justement dans le sens où justement l'équipe qui va être reçue justement par le club même, le fait qu'il n'y ait pas cet apport justement par rapport aux supporters, ça passe quelque chose, quoi, je pense.
Alors dernière question, Johan, vous êtes prêté par Guingamp à Concarneau cette saison, vous êtes sous contrat à l'EAG jusqu'en juin 2022. Comment imaginez-vous la suite de votre carrière à moyen terme?
À moyen terme, franchement, je sais pas encore, parce que j'espère vraiment d'abord dans un premier temps pouvoir progresser actuellement à l'US Concarneau, poursuivre d'abord ma progression. Et après justement on verra une fois dans comment ça va se passer.
Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite de progresser encore avec l'US Concarneau bien sûr, et pourquoi pas de rester dans les hauteurs du classement de National comme c'est actuellement le cas. Merci Johan Bilingui d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonsoir.
Merci
beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au carillon, au coucou de Radio Bonheur, il est 20h01. Les infos, on se retrouve juste après pour la dernière demi-heure du magazine des déchaînés du football. On garde le meilleur pour la fin.
Évidemment.
Le AG, l'en avant Guingamp au programme de cette dernière demi-heure avec les déchaînés du football. A tout de suite.
Bonsoir à tous. 50 ans après la mort du général de Gaulle, le couple Macron s'est rendu ce lundi à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, le village où le fondateur de la 5e République est enterré. Au cours d'un hommage discret presque à huis clos, Emmanuel Macron a insisté sur deux valeurs qui demeurent d'actualité, la résilience et la volonté. Dans ce village désert, en raison de la crise sanitaire, le contraste avec les années précédentes était saisissant, puisque seuls les gendarmes et les chiens renifleurs se sont affairés autour de la tombe du général de Gaulle pour vérifier qu'aucun engin explosif n'a été placé dans le cimetière. De son côté, écouté le chef de l'État assurer un service minimum sans discours présidentiel, mais avec une visite express de la Boisserie, la dernière demeure de Charles de Gaulle, transformée en musée depuis. Il a déposé ensuite une gerbe de fleurs devant la tombe du général et de son épouse Yvonne, avant de terminer sa visite par la traditionnelle cérémonie militaire à la Croix de Lorraine. Malgré l'annonce du gouvernement sur un renforcement du protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées, le mouvement des stylos rouges et nombre de syndicats d'enseignants ont lancé un appel unitaire à la grève ce mardi 10 novembre. C'est tout ce qu'il nous reste, c'est ce que déclare Nicolas Glière, professeur de lettres et membre du mouvement des stylos rouges. Le protocole sanitaire est inexistant, selon lui. Nous sommes livrés au Covid, enseignants, élèves et familles. Selon l'enseignement, aucune distanciation n'est possible. Les salles de classe sont bondées, les cantines pleines. Parmi les revendications de cette future grève, la création de demi-groupes, des mouvements de manifestation sont prévus dans la journée de demain, selon le professeur. L'objectif, promouvoir les produits locaux en grande surface. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a confirmé qu'une charte serait signée par toutes les grandes surfaces ce lundi lors d'une réunion par visioconférence. Selon le ministre, le premier confinement avait révélé une nouvelle tendance de consommation avec des achats en plus grand nombre de produits frais et locaux, un mouvement qu'il souhaite maintenant inscrire dans la durée. Concrètement, cela se traduira par la mise en place d'une bannière plus près de vous et de vos goûts qui simplifiera l'identification de ces aliments produits localement et frais. Cette nouvelle mesure sera déployée progressivement dès maintenant et jusqu'à l'année prochaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Simon Kiki pour le magazine des déchaînés du football, la dernière demi-heure donc. On a parlé dans la première heure du championnat de Ligue 1 avec Brest, avec Lorient, du championnat national avec Saint-Brieuc et Concarneau. Saint-Brieuc, le prochain adversaire, je n'ai pas retenu, je ne sais plus si on en a parlé, le prochain adversaire
Bastia,
de Briochin.
À Bastia, ouais.
À Bastia. Oh,
il y a deux déplacements de suite à Bastia et à Quevilly pour nos amis de Saint-Brieuc.
Match en retard, Quevilly, non ?
Oui, c'est ça. Et on remercie James Lemarer qui était à l'écoute de l'émission et qui nous a effectivement dit que Angois était titulaire sur le match de Coupe de France, mais latéral droit. Donc c'était pas la charnière.
Puisque comment James justement était blessé, était absent sur ce match là. Donc merci à James en tout cas.
Voilà, et bravo encore pour le but. Bon, ça c'était le 22 qui rigole. Là on a le 22 qui se morfond à Guingamp. Ouais. Nouveau match nul, nouveau match sans but pour les Guingampais à Clermont. Match sans grand frisson samedi. Même si ça a été moins pire. Évidemment que contre Sochaux, Guingamp qui est revenu avec le point du nul à froid. Gaëtan, comment l'accueillir ce point pour les Guingampais?
C'est pas un mauvais point parce qu'on sait que c'est Clermont qui a été quand même quatrième avant le match, qui est une équipe l'année dernière qui était dans la course à la montée, qu'il sera possiblement encore cette année, qui à domicile est assez solide aussi, donc c'est pas un mauvais point. Par contre, le côté négatif, c'est que dans l'animation offensive, bon, c'était moins pire que contre Sochaux, mais c'est quand même relativement triste. Pas de but à nouveau.
Oui, pas de but, pas d'occasion quasiment. Je sais pas combien on a eu de tirs, mais de tirs cadrés extrêmement peu.
Il y a eu celle de Gomis de la tête qui passe juste à côté et une juste au-dessus. Il y a une frappe de Romao aussi sur un joli mouvement collectif.
Globalement, quand même, on s'est ennuyé ferme.
Ouais. Prendre un point à Clermont, c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la manière, on attend encore bien mieux de la part de Guingamp.
C'était pas Brest.
C'était pas le spectacle proposé par Brest, bien sûr. Mais voilà, on attend mieux à ce niveau-là.
Même élan non plus à Guingamp.
C'est pas le même élan non plus. Mais le point positif, c'est quand même de prendre un point et de défendre relativement bien quand même. Ça, on peut pas l'enlever à Guingamp.
Oui, effectivement, on a quelques chiffres pour souligner tout ça, mais les chiffres du match. D'abord, 57% de possession pour Clermont, 43% pour Guingamp, 14 tirs à 9 pour Clermont, 3 tirs cadrés partout seulement, les deux équipes qui ont très très peu cadré. Et vous verrez aussi dans les prochains chiffres qu'on va vous donner que ça cadre très très peu dans les matchs de Guingamp, mais que ce soit de Guingamp, mais des adversaires aussi. Première réaction, puisqu'on ne les a pas eu l'autre jour, première réaction de Mecha Bazdarevic, l'entraîneur.
Comme adversaire aussi, on était souvent en place, nous aussi, voilà, on essayait d'être en place, bien en place, organisé, mais aussi en même temps, on essayait de jouer. Et puis je pense qu'on a, je sais pas les statistiques, mais on a eu quand même pas mal de ballons. On s'est créé occasion, il manquait cette justesse.
En première mi-temps, plus,
il y a eu plus, trois occasions intéressantes. Ouais, plus personnalité dans cette phase finale, voilà ce qui nous manque depuis quelques semaines, mais je pense qu'on va travailler puis on va progresser. Mais match nul, je pense qu'il sert clairement. C'est pas mal, c'est un bon résultat. Surtout que je pense que 90 minutes, c'était assez intéressant.
Deuxième réaction, elle était au bord du terrain après la rencontre, celle d'Alexis Romao au micro de beIN Sport.
Ouais, effectivement, on a bien défendu. Après, on a joué face à une bonne équipe de Clermont, mais bon, on aurait pu faire mieux. Voilà, offensivement, on aurait pu mieux gérer l'avant-dernière passe, la dernière passe pour se créer plus d'occasions, c'est sûr.
Comment vous la voyez évoluer, vous, cette équipe, depuis le début de saison? Elle évolue bien ou alors ça stagne et il y a un travail encore
énorme? Non, bien sûr, il y a beaucoup de travail encore à faire. L'entraîneur, il est arrivé il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, on essaie de se construire. Déjà, c'est bien qu'on n'ait pas pris de but aujourd'hui. On repart avec un point contre une bonne équipe de Clermont. Et sûr, dans le jeu, on pourrait beaucoup, faire beaucoup mieux. Donc, voilà, avec un peu plus de confiance, c'est sûr qu'on pourra faire de meilleures choses.
Voilà, c'est la confiance hein, qui manque surtout à cette équipe. On le voit dans les courses, dans les gestes, dans les choix, dans les passes, dans les contrôles, dans les tirs. C'est très très laborieux pour les Guingampais. On revient donc sur ce match parce qu'il y a eu un fait de jeu. Alors déjà, il faut dire qu'en début de rencontre, il y a Gomis qui arrive en face au gardien. Il l'élimine. Le hors-jeu est sifflé, il s'arrête alors qu'il est quasiment face au but vide.
Ouais, là il aurait pu avoir un but vraiment. C'est sans doute pour moi la plus belle occasion de Brest, même s'il a pas frappé.
De Guingamp.
De Guingamp, pardon. Je suis encore avec mes Brest, toi. Mais oui, c'est vrai qu'il arrête son action et je pense que facilement elle rentrait dans le fond si l'arbitre n'avait pas levé son drapeau.
Et on a revu que sur le révélateur, il n'y avait pas forcément hors-jeu de Yannick Gomis sur cette action-là. Et ensuite, sur un corner pour Clermont a marqué un but avec Untonji, mais l'arbitre, Monsieur Barthes, a refusé le but parce que il avait vu une main de Bayo et on a encore revu les ralentis avant cette
pas
rencontre,
flagrante, hein,
avant cette émission, ouais. Et on n'arrive pas à savoir, Gaëtan, on y reviendra dans un instant, si le ballon est touché par Bayo ou simplement par la hanche de Niakate. La hanche de Niakate, c'est sûr, mais est-ce qu'avant elle a été touchée par la main de Bayo? Ça, on ne sait pas. En tout cas, évidemment, l'entraîneur de Clermont, Monsieur Gatien, était en colère.
Ouais, quand même, parce que je pense qu'il y a but. On nous refuse le but. Nous avions refusé 2-3, donc là encore un but. Ça fait 3 buts refusés qui, je pense, sont valables. Plus le penalty qui est indiscutable. Bon, bah, c'est comme ça. Non, c'est fini, ça passera. Et puis, on va partir sur autre chose. Mais non, je ne suis pas très content quand même. Je suis pas très content.
Il n'y a pas la VAR en Ligue 2, mais en même temps, même avec la VAR, ça ne résout pas les problèmes. En tout cas, sur la main.
Oui.
Nous, on a vu plusieurs fois les images avec le ralenti. Et
encore aujourd'hui.
Suivant les angles, c'est difficile de se prononcer. Pour moi, il n'y avait pas main.
Moi, sur le premier plan ralenti, j'ai l'impression qu'il y a main. Et ensuite, quand on voit vraiment la caméra la plus proche, ça touche la hanche de Niakate. Mais on a l'impression qu'avant, elle ricoche sur la main de Bayo. Oui. Mais
c'est
il est masqué, donc on ne le voit pas.
Précise, mais c'est effectivement la conclusion à laquelle on est arrivé en revoyant à maintes et maintes reprises les ralentis sous différents angles. On ne saura vraiment jamais, mais c'est vrai que ça. Bon, le débat peut exister. On peut comprendre aussi la frustration de Pascal Gatien, d'autant que.
Il parle de pénalty aussi. Hein.
Oui, cet arbitre-là avait déjà invalidé 2 buts à Clermont contre 3 il y a quelques semaines. Bon, justement, peut-être. Par contre, le pénalty, oui.
Comment il s'appelait cet arbitre?
Monsieur Barthes.
C'était Monsieur Barthes.
Ah, ouais. Monsieur Barthes.
Alors. Il parle du pénalty indiscutable. Je n'ai pas à souvenir, moi, de cette action-là.
On essayait de le revoir aussi. Il n'est pas dans le ralenti. Une faute de Romao.
C'est une faute de Romao. Et que m'indiquaient mes collègues de la presse écrite, on en parlait aussi dans la journée. Je n'ai absolument aucun souvenir de cette faute. Vous non plus, Pierre.
J'ai pas de gymnastique dans le week-end. Hein. Ça, c'est très possible.
Ouais, c'est possible aussi. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça reste à ce niveau-là. Mais on peut comprendre la colère de Pascal Gatien, effectivement, avec l'arbitre qui, deux fois, finalement, leur.
vole un peu la victoire.
Ouais, on va dire en tout cas, ouais, intervient de manière négative sur la situation de Clermont.
Par contre, l'entraîneur de Clermont, Pascal Gassien, a reconnu déjà la mauvaise première période de ses hommes, mais notamment parce que ce Guingamp-là, sous Bazdarevic, est dur à manœuvrer.
Bien sûr, je pense qu'on a fait une première mi-temps pauvre, techniquement. C'était difficile, dû aussi à cette équipe de Guingamp qui est bien organisée, qui est difficile à mettre hors de position. Donc on a fait une mauvaise première mi-temps, je trouve. Par contre, on s'est bien ressaisi en seconde mi-temps et je pense qu'on méritait au moins de marquer un but en deuxième mi-temps.
Elle est faite pour ramener du 0-0, hein, cette équipe de Guingamp. Le problème, c'est qu'à domicile, c'est un peu la même chose.
Oui, il suffit de regarder les statistiques. Hein. Sur les 5 derniers matchs, Guingamp en a passé 4 sans marquer. Il n'y a eu que les 2 buts contre Auxerre. Sur les 7 derniers matchs, par contre, il n'y a eu que 2 buts encaissés par les Guingampais. Et quand on regarde le passage de Bazdarevic, ça commence donc par le match du Havre, qui est peut-être le meilleur match de Guingamp dans offensivement. Il y avait eu une vingtaine de tirs et Guingamp avait perdu 3-1 face à une équipe havraise qui avait été insolente d'efficacité. Mais quand on regarde depuis donc cette trêve, je crois que c'était en septembre la trêve. Non, exact, c'était après la trêve.
Ouais, c'était juste après, mais c'était fin septembre. Hein.
Ouais. Et à partir donc du moment où Bazdarevic a commencé à manier cette équipe, on voit que défensivement, il l'avait annoncé, il voulait redonner de la solidité à ce groupe. C'est vrai qu'on s'ennuie, qu'il se passe rien, il y a aucune émotion dans ces matchs de Guingamp, mais défensivement, il réussit son entreprise.
Ah
il
n'y
a
oui,
pas de but.
Oui, ça c'est ce qu'ils mettaient en place dans les autres équipes. Hein. On se souvient qu'au Paris FC, l'année où ils finissent 4e il y a 2 ans, c'est je crois même là où l'une, mais peut-être même
je crois qu'ils n'ont que 28 buts. C'était
28 buts en 38 matchs. Ils en prenaient aussi très très peu. Par contre, ils avaient notamment Silas Wamangituka devant, là, un attaquant qui a mis 15 ou 17 buts dans la saison. Ils avaient un homme capable d'avoir peut-être une ou deux occasions seulement dans le match, mais elle rentrait. Ouais. C'était ce qui faisait la différence du côté du Paris FC de Mecha Bazdarevic, à l'inverse du Guingamp de Mecha Bazdarevic, où les quelques, voire rares occasions qu'il peut y avoir sur ces derniers matchs ne sont pas au fond.
Ouais, nos attaquants sont un peu moins en confiance.
Exactement. Et un mot, on en parlait des statistiques. J'ai calculé tout à l'heure la moyenne de tirs cadrés depuis l'arrivée de Bazdarevic. Elle est de 3,1 tirs cadrés par match, donc ce qui est très faible pour Guingamp, mais elle est encore plus faible pour les adversaires. 2,6 tirs cadrés par match concédés. Donc ça prouve que c'est très dur.
C'est ce que met Brest en Ligue 1, hein, comme but, quasiment par match.
C'est le nombre de buts, c'est pas le nombre de tirs cadrés, pour eux, c'est le nombre de buts.
Exactement. Et du coup, ça montre cette vérité de l'automne 2020 à Guingamp. C'est très dur de regarder Guingamp, de prendre du plaisir avec cette équipe. On a l'impression que les joueurs ne sourient pas sur le terrain. Mais dans l'autre sens, c'est très dur de bouger cette défense. On a vu Grenoble qui est arrivé en position de meilleure attaque, qui n'a pas marqué. On a vu Auxerre qui en avait collé 5 à Ajaccio la semaine d'avant, qui n'a pas marqué. Clermont, qui est l'une des plus belles équipes de Ligue 2, qui n'a pas marqué, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Donc voilà, maintenant, la défense, c'est bien. Il faut maintenant retrouver du dynamisme devant, du côté de Guingamp. Et peut-être qu'avoir cette défense-là, cette organisation-là, ça doit libérer les quatre de devant qui sont choisis à chaque fois par Mecha Bazdarevic.
Mais c'est ce qu'on disait aussi pendant le match, c'est qu'en termes de choix, il n'en a pas beaucoup non plus, Mecha Bazdarevic, en ce moment.
Surtout
parce
pour
que,
numéro 9.
C'est ça. Il n'y a qu'un seul attaquant de pointe, c'est Yannick Gomis. Mathias Faeton était absent par rapport à la COVID-19. Franz Di Piero est toujours blessé. Donc il est censé avoir 3 joueurs pour un poste, voire peut-être jouer à 2 devant, mais là c'est pas possible parce qu'il n'y a plus que Yannick Gomis, donc ça limite un peu les choix aussi. Ceci dit, je le vois pas changer de schéma tactique, hein. C'est vrai que ce 4-2-3-1 fait en sorte que Guingamp soit très solide avec toujours 2 récupérateurs, voire même Changama qui redescend d'un cran sur les phases défensives pour consolider encore un peu ce milieu de terrain. Donc je le vois pas changer de schéma, même si il y a plus de choix pour le poste de numéro 9. Maintenant, peut-être que changer le numéro 9 une fois de temps en temps, parce qu'on le voit, Yannick Gomis, il n'est pas dans le coup pour l'instant, il est dans le creux de la vague. Ça arrive pour les attaquants. Je pense que tous les attaquants dans leur carrière ont connu ça, ou presque.
Lui aussi, il disait, il a déjà connu avec Orléans et Lens des périodes de 2 mois sans marquer. Là, c'est le cas, il a plus marqué depuis 19 septembre, je crois.
Ouais, donc c'est le cas. Maintenant, il faut essayer de trouver des remèdes à cela et de transformer les quelques occasions, parce qu'on sait de toute façon que le style de jeu de Mecha Bazdarevic, ce n'est pas d'avoir 50 occasions dans les matchs.
Oui, on l'a entendu avec Olivier Dalloglio et sa philosophie tout à l'heure avec Brest. Ce n'est pas la même philosophie pour Mecha Bazdarevic, qui a noté quand même que par rapport au match contre Sochaux, il y avait un petit peu plus de... Bon, évidemment, bon, encore une fois, à chaque fois que je pense à ça, je dis que c'était compliqué de faire pire. Mais voilà, il y avait un petit peu plus d'envie, notamment dans cette équipe par rapport à la semaine dernière.
Ouais, c'est très important. C'était très important ce qu'on demande depuis un moment. Encore plus d'énergie, encore plus personnalité, encore cette attitude, elle doit être vraiment présente chaque match. Après, il faut qu'on travaille, qu'on s'améliore encore techniquement, sur notre possession, sur notre finition. Voilà, c'est les choses qu'on travaille, qu'on va assister. Et j'espère le prochain match, il y aura des buts.
Bah on l'espère tous, mais c'est vrai que...
Ajaccio, là c'est Ajaccio oui. À domicile le prochain match.
Ajaccio qui est mal en point dans ce début de saison.
Ils ont gagné à Rodez, mais c'est vrai qu'ils gagnent très rarement quand
ils
même.
Ils ont gagné que deux fois contre Rodez et Dunkerque.
Ah, j'ai trois victoires moi.
Ou trois victoires peut-être, ouais. Rodez, ouais. Dunkerque, j'ai pas la troisième en tête.
Clermont. Ah, Clermont, tiens.
Ah oui, mais ils avaient gagné à Clermont.
Ouais, mais c'est bizarre. Hein, cette
fallait gagner
de...
à Clermont alors.
Ah voilà.
Elle est bizarre cette équipe corse qu'on voyait dans le haut du classement qui se retrouve à se battre pour le maintien. Mais il faut s'en méfier, hein, comme de la peste, je pense, pour les Guingampais lors de la réception donc d'Ajaccio dans deux semaines, un peu plus de deux semaines. Là, si, juste dans deux semaines, parce que ce sera lundi soir, match à 20h45 dans deux semaines, on le répète, puisqu'il y aura la trêve le week-end prochain. Guingamp contre Ajaccio, on sera le lundi 23 novembre.
Exactement, et vous avez quand même vu ce week-end qu'il y a eu 69 buts inscrit en Ligue 1 et en Ligue 2.
Incroyable.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et beaucoup, dans le multi Ligue 2, donc les matchs de 19h, il y a eu 31 buts avec notamment un Toulouse-Valenciennes. Le jour même où on disait que la philosophie de la Ligue 2 c'était de pas prendre de buts.
Ah ben là c'était tout le contraire.
On a pris le revers de la médaille en pleine face.
4-5. Ouais.
Ça s'appelle le karma les
amis. Et Niort qui a gagné 4-3 aussi à
Sochaux.
Il y a
eu un 4-4 aussi
en Ligue 1 hier.
En Ligue 1, ouais, 4-4, ouais. 5-1 pour Angers.
5-1 pour Angers, ouais.
Et
Nîmes.
Le seul 0-0 sur les 20 matchs, c'est clairement Guingamp.
Je ne sais plus quoi dire. Bon, ça fait partie aussi.
On vaut mieux ça qu'un 0 pour l'adversaire, vous me direz. Mais
oui,
bon.
Oui.
Non, mais c'est vrai que ça n'a pas marqué.
Mais c'est vrai que bon, ça vient à la suite de matchs déjà pas très clinquants du côté d'en avant. Trois matchs sans marquer. Je vais rechercher la statistique, mais c'est. Bon, ça.
Alors, si Ajaccio vient pour défendre, je ne sais pas ce qui va se passer.
Ben, il faudra de la justesse.
C'est ça. C'est le maître mot de Mecha Bazdarevic.
Mais c'est vrai, après, ça c'est le plus dur à travailler. Hein. Les redonner de la confiance, de l'allant à une équipe qui doute, qui manque de confiance, c'est pas facile. Hein. Parce qu'on voit, Gomis c'est pas le seul à douter. Il y a d'autres joueurs qui sont aussi un petit peu dans le creux de la vague, qui sont loin de leur niveau. Mais même Shangama, qui l'année dernière était le meilleur joueur de cette équipe de Guingamp. Bon, depuis le début de saison, il a des éclairs, des étincelles, mais il est moins régulier. Il revient de la Covid là aussi ces derniers temps, donc il faut prendre ça en considération. On l'a vu hier avec Fabio, le Nantais, qui est sorti au bout de 23 minutes. Oui. Gourcuff, qui l'a expliqué, c'est parce qu'il ressentait encore de la fatigue. Donc,
l'essoufflement, oui.
Ouais, il faut avoir encore ça en tête, mais bon, on attend d'avoir un autre Guingamp après la trêve internationale. 20h19, on revient tout de suite.
Les ateliers Renault continuent d'assurer votre mobilité.
Donc, muni de mon attestation, je peux venir faire entretenir ma voiture ?
Bien sûr. Les ateliers du réseau Renault restent ouverts pour garantir la mobilité de ceux qui en ont besoin, dans le respect du protocole sanitaire.
C'est-à-dire ?
Eh bien, avec des mesures de protection, du dépôt de votre voiture jusqu'à sa restitution. Donc, nos techniciens vous accueillent pour entretenir ou réparer votre voiture.
Parfait, sécurisant et pratique.
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur Renault.fr.
La paire. Pour Thérèse, ce qui compte avec un placard coulissant, c'est de ne pas faire de bruit. Et pour Marine, c'est de pouvoir tout ranger rapidement. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 30 novembre chez La Paire, profitez de moins 25% sur les portes de placard coulissantes sur mesure. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Oh tiens, Franck Ferrand, vous restez pas chez vous pour regarder comment les petits gars d'Akena construisent votre véranda.
Chantal, vous avez l'air contente de me voir. C'est bien parce que justement je me sais entouré des talents d'Akena que j'y vais les yeux fermés.
Ah ouais.
Ils sont ingénieurs, conseillers, techniciens, concepteurs, maîtreurs, poseurs.
Oui bon, ça va, vous n'avez pas tous me les citer. Ils sont plus de 700 spécialistes et ils connaissent leur métier.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Parce que beaucoup d'entre vous ont toujours besoin de se déplacer en toute sécurité, les 340 centres Feu Vert sont ouverts dès 8h30 et renforcent leurs services. Prise de rendez-vous en ligne, drive sans contact, click and collect, livraison à domicile, tout est à portée de clic sur feuvert.fr. C'est ça, la patte de l'expert.
À 20h22 minutes, les dernières minutes du magazine des déchaînés du football, et on continue de parler de Guingamp. En espérant que ça s'améliore quand même dans cette suite du championnat après, après cette pause qui nous attend le week-end prochain.
Oui, et on disait tout à l'heure que l'on n'avait pas en mémoire la dernière fois, la dernière série où Guingamp n'avait pas marqué pendant 3 matchs de suite. Là, on remonte, je peux vous dire, on est à novembre 2017, donc avant la terrible saison en Ligue 1. Mais Guingamp marquait, il y avait eu juste 2 matchs de suite où Guingamp n'avait pas marqué, mais à chaque fois, bon, il y avait beaucoup de défaites, hein, mais c'était des défaites 3-1, 4-0, 2-1. Donc Guingamp marquait des buts. Et là, on est rendu à l'automne 2017, et on n'a toujours pas retrouvé trace de 3 matchs sans marquer pour les Guingampais. Est-ce qu'on peut dire, mon cher Gaëtan, que cette équipe de Guingamp progresse ?
Ah, ça c'est une vraie question. Bon, l'animation offensive, on en a parlé déjà à maintes et maintes reprises. Elle progresserait. Ouais, c'est pas évident d'y répondre. Elle progresserait peut-être au niveau de ses jeunes joueurs. On pense à. Alors, je vois aussi le nom de Roux, on va l'entendre tout à l'heure, mais Baptiste Roux, qui lui s'installe aussi dans ce milieu de terrain. On pense à Jérémy Livolant, qui commence aussi à jouer de plus en plus. Mathias Feuilleton, qui était absent par rapport à la Covid-19, mais qui, sur ses derniers matchs, a été aussi important. S'il y a un point sur lequel Guingamp progresse, je pense, c'est aussi celui-là, sur le fait d'incorporer ses jeunes joueurs et que ces jeunes joueurs soient capables de faire la différence sur certains matchs. Parce que Livolant, on se souvient que c'est lui qui marque un des deux buts contre Auxerre. Feuilleton, c'est lui qui sauve le match à Nancy lors de la deuxième journée. C'est lui qui marque aussi contre Le Havre pour le premier match de Bazdarevic. Donc le progrès, je pense, il vient des jeunes joueurs. Après, dans le jeu, d'une manière générale, pour l'instant, pas tellement.
Non. Par contre, défensivement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant, costaud, organisé du côté d'en avant. Écoutez, justement, vous nous avez tendu la perche, mon cher Gaëtan. Baptiste Roux, l'un des jeunes, qui revient sur ses progrès qu'il sent dans son équipe.
Oui, je pense que ça s'est vu qu'il y avait plus d'envie au pressing, dans les courses, des courses plus tranchantes. On était tous ensemble, on a parlé, on sait ce qu'on a à faire. Je pense que ça s'est vu sur le terrain, même si y a des choses à rectifier quand même, hein, mais je pense que c'est un match intéressant, où il y a des choses à garder. Donc c'est bien et ça doit nous servir pour la suite aussi.
Ouais, au classement, les Guingampais sont quand même pas très très bien positionnés, Gaëtan.
Non, ils sont 13e avec 12 points. Ils n'ont que 4 points d'avance sur le premier relégable, Châteauroux, qui est 19e. Donc, ils sont pas en grande forme. Ils sont pas très loin non plus du haut. Mais bon, on a plutôt tendance à regarder vers le bas.
Il y a deux clubs à 9 points. Il y a Pau et Rodez qui sont à 9 points, donc 4 points en dessous. Et puis on a Nancy, Amiens et Ajaccio entre ces clubs. Quoi. Mais
c'est ça.
C'est pas brillant pour l'instant au niveau du classement.
Plus vers le bas parce qu'on n'arrive pas à avoir de série positive, on n'arrive pas à avoir un enchaînement positif du côté de Guingamp. Donc on a surtout envie de se méfier avant d'espérer mieux finalement du côté d'en avant.
Bah, c'est vrai que c'est bien de regarder devant, d'avoir des ambitions. Mais aujourd'hui, écoutez le dernier son là, sur l'optimisme de Mecha Bazdarevic.
Et vous savez, je suis toujours optimiste, mais je suis toujours aussi, je dirais, sur mes gardes. Voilà, on travaille. Je pense que cette équipe, elle mérite un classement autre, vu ce qu'on a produit, pas ce soir seulement, mais d'autres matchs. Voilà, justement, il faut qu'on reste solide, très solide, mais il faut dans notre possession, dans notre animation offensive, que cette équipe s'améliore. Et je suis optimiste, et je vais être encore plus optimiste après le match de ce soir.
Alors, il va falloir gagner à un moment, quoi. C'est ça. Hein. C'est
déjà
la différence. Marquer et gagner. Oui, mais ça va de pair.
Après, cette équipe, elle a quand même gagné des matchs cette saison, mais c'est vrai qu'on est très très loin de ses ambitions annoncées, placardées. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de changements en début de saison qu'il faut d'abord regarder en bas. Moi, on prend l'exemple parce que on en parlait après le match contre Clermont samedi, Gaëtan. On a vraiment l'impression de retomber dans le milieu des années 2000, où Guingamp s'était construit une belle équipe sur le papier pour remonter, Et ça avait mis 9 ans pour remonter en Ligue 1.
Il y avait même eu une descente en national entre-temps.
Mais une Coupe de France en 2009.
Mais une Coupe de France, c'est vrai. Mais voilà. C'est vrai que oui, moi j'ai l'impression de revoir le Guingamp de 2005, 2006, 2007 avec des joueurs... Il y a un talent dans cette équipe, c'est clair et net. Il y a des joueurs qui sont faits pour être au-dessus de cette 13e place de Ligue 2, pour être même certains au-dessus de la Ligue 2, tout simplement. Et le problème, c'est que ça prend pas d'une manière générale et que c'est souvent par intermittence. On va voir une équipe de Guingamp capable peut-être de gagner 4-0 un match, mais le match suivant, je pense aux années par exemple 2005-2006, Guingamp qui avait battu par exemple Amiens 6-0, Guignon 6-1 à domicile, mais qui était capable aussi d'enchaîner, comme c'est le cas là, des séries de matchs sans victoire, sans marquer, et avec un jeu quand même soporifique sur plusieurs matchs. Il y a des individualités plus qu'un collectif finalement, sauf défensivement où ça défend bien, ça on l'a dit, mais pour le reste, il y a de temps en temps un éclair comme le super but de Pelé contre Auxerre. Ça va pas plus loin pour l'instant.
Hélas. Alors on a mené l'enquête, là ça faisait 10 minutes qu'on était sur le coup, sur la dernière fois où Guingamp n'avait pas marqué lors de 3 matchs de suite. Eh bien, figurez-vous que toute compétition confondue, la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a plus de 3 ans. C'était en avril 2017. Il y avait une défaite à Lille 3-0, une défaite contre Saint-Etienne 2-0 en championnat, et entre les deux, la demi-finale de Coupe de France à Angers, ouais, a perdu 2-0, avec notamment le pénalty de Jimmy Briand à la dernière minute. Et en championnat, il fallait remonter à 5 ans les 3 premiers matchs de la saison 2015-2016 en Ligue 1. C'était la dernière année pleine de Gourvennec en Ligue 1. Souvenez-vous, il y a eu 3 défaites pour entrer dans cette saison. 1-0 à Nantes, 1-0 contre Lyon avec le but de Beauvue, et 3-0 à Bastia. Et cette série avait pris fin contre Marseille. Victoire 2-0, but de Privat et Benezé. Donc voilà, c'est rare quand même de voir Guingamp autant de matchs sans marquer. Ouais. Et moi, c'est ce qu'on disait avec Lorient qui marque plus mais qui avait quelques occasions. Moi, ce qui m'inquiète un peu avec Guingamp en ce moment, c'est que il n'y a pas de but, mais il y a surtout pas ou très peu d'occasions.
Ouais, elles sont. Alors, il y en a eu des plus chaudes quand même sur le match de Clermont.
Contre Clermont, oui.
La tête de Gomis, par exemple, en deuxième mi-temps, là, qui passe vraiment pas
le
loin.
Jeu, la frappe battue, de Romao, jeu, etc. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est quand même, d'une manière générale, il y en a très peu. Alors Sochaux, j'avais pas vu le match en entier, mais quand il y avait
rien eu,
voilà. Auxerre sur la première mi-temps, il n'y a pas d'occasion. Sur la deuxième, il y a des deux buts, oui. Mais sur la première mi-temps, rien. À Pau, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Pas à Pau, à Dunkerque. Ça fait quand même trop peu. Alors qu'il y a quelques semaines, souvenez-vous, Pierre, lors des précédents magazines, on disait « Ah, Gomis a manqué une action, le but était vide ». Ça voulait dire qu'il y avait des actions, des occasions. Et là, il n'y a plus ça. Il ne rate plus les occasions parce qu'il n'y en a plus. C'est un peu le problème.
Ou très peu, pas assez en tout cas.
Enfin, pas assez. Il y a des équipes qui, on voit Marseille l'autre jour, qui a gagné en tirant une seule fois dans le match. Ils ont gagné 1-0.
Ouais.
Mais c'est quand même très rare ce genre de situation. Et quand on veut gagner, prétendre à mieux que ça, prétendre à jouer le haut de tableau d'un championnat, en général, il faut quand même se créer plus d'occasions et marquer évidemment plus de buts.
Les Guingampais joueront dans 2 semaines, donc pile poil. Hein, ça sera le lundi 23, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oui,
lundi 23, match à 20h45, donc juste après le magazine des déchaînés du football. Les déchaînés du football restent avec vous cette semaine. Oui. Et puis le week-end prochain, ce sera la pause. Et puis on se retrouve demain matin à 8h40 pour les différentes rubriques. Hein, Lorient, Brest et Guingamp, rediffusion à 17h40.
Oui, Pierre. Oui, et puis non, je regardais juste parce qu'on disait que c'était le 1-0 ou 0-0, c'était le score Bazdarevic. Il y a eu, à partir de son deuxième match, Bazdarevic, il y a eu 7 matchs, 6 buts cumulés pour et contre Guingamp.
Très
1-0 pour Guingamp à Pau contre Grenoble, victoire 2-0 contre Auxerre, défaite 1-0 contre Dunkerque et Caen et 2-0-0.
C'est toujours sur des toutes petites marges.
Oui, exactement.
Alors,
oui,
la ça rubrique encaisse donc, peu, qui... mais ça marque très très peu.
Oui, et la rubrique qui continuera donc cette semaine, on parlera de Brest, Lorient, Guingamp, de quelques clubs amateurs, notamment Nicolas Cloiret qui a retrouvé un club. On parlera de l'équipe de France avec peut-être les débuts de Marcus Thuram en bleu, l'ancien Guingampais. Voilà, gros programme à venir quand même. Et puis, le magazine, lundi soir prochain. Saint-Brieuc jouera d'ailleurs pendant le magazine à
Bastia. On parlera national, forcément, le week-end prochain, enfin, dans le prochain magazine des déchaînés du football lundi soir.
On devrait avoir des ex aussi, des anciens joueurs de Brest, Lorient et Guingamp. On vous prépare tout ça et on vous dit à lundi prochain.
Bonne soirée à tous. Merci à Sébastien qui est avec nous pour la vidéo sur la page Facebook des déchaînés du football. Bonsoir messieurs, bonsoir Sébastien, bonsoir Pierre, bonsoir Gaëtan.
Bonsoir.
À demain.